France Inter.
Interception ce dimanche, ce sont deux histoires de fuite. Pas du tout dans les mêmes registres, ni pour les mêmes raisons, ni aux mêmes endroits. Mais vous trouverez des similarités dans ces deux histoires, parce que ce qu'elles ont en commun, c'est la culpabilité. C'est pas facile quand on est un homme de dire qu'on a peur, c'est inaudible de le dire quand on vit dans un pays en guerre, et que refuser de partir se battre, c'est possiblement laisser quelqu'un mourir à sa place. Refuser de partir se battre, c'est croiser tous les jours des femmes qui ont perdu leur fils. Refuser de partir, c'est payer, tricher, quand d'autres n'ont ni les moyens, ni les contacts pour le faire. Mais que feriez-vous si vous étiez ukrainien? Si vous aviez quasiment la même vie que n'importe quel jeune homme de Kiev avant la guerre? Le travail, la famille, les amis, la fac, les sorties, un café, un ciné? Que feriez-vous si vous saviez très bien que cette guerre est un corps à corps avec l'ennemi russe dans les zones les plus disputées? Que feriez-vous si vous étiez Alexandre ou Igor? L'un a payé un médecin qui l'a déclaré inapte, c'est Igor. L'autre a payé un officier pour sortir du centre de rétention de l'armée dans lequel on s'apprêtait à lui mettre une arme entre les mains. C'est Alexandre.
Interception. Fabienne Sintès sur France Inter.
Une personne normale, si elle a la tête sur les épaules, elle n'a pas envie d'aller à la guerre. Personne n'a envie de tuer des gens. Les Ukrainiens sont des gars solides, mais c'est simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. On veut donner l'impression qu'on est des robots. Mais non, on est des gens ordinaires et on est au bout de nos forces.
Ne croyez pas qu'il la vit bien. Alexandre, sa fuite, Igor n'est pas très à l'aise non plus. Le peuple ukrainien a montré un courage inouï depuis l'invasion russe. Les histoires de tous ceux qui partent se battre volontairement ne sont pas des histoires inventées à des fins de propagande. Ce courage, il existe. Mais l'autre réalité, c'est que 250 000 hommes en âge de se battre ont déserté depuis 2022. Plus de la moitié les 7 premiers mois de 2025. Ça veut dire que c'est de pire en pire. Voici donc deux histoires rares de désertion racontées par Noé Pignède. Deux hommes qui n'ont pas le courage d'aller à la guerre, mais le courage de dire « j'ai peur ».
Je marche dans une rue, je ne peux pas exactement vous dire dans quelle ville on est pour protéger l'anonymat de l'homme avec lequel on a rendez-vous. Mais ce que je peux vous décrire quand même, c'est que la nuit vient de tomber. Les immeubles gris et ocre sont à peine éclairés, il y a pas mal de coupures d'électricité parce que les Russes bombardent sans relâche les infrastructures de la région. Les gens ici vivent au rythme des sirènes antiaériennes qui se déclenchent à chaque fois qu'un drone ou un missile survole la zone. Et on est à quelques dizaines de kilomètres seulement de la ligne de front. Il y a quelques femmes qui sont en train de rentrer chez elles autour de nous. Mais pas d'hommes, ou presque. La plupart de ceux en âge de combattre sont mobilisés par l'armée. Celui que vous allez entendre, lui, a réussi à échapper à cette conscription obligatoire. Il m'a demandé de bien vérifier que je ne suis pas suivi, de couper mon téléphone, car il peut être arrêté à tout moment. Sa condition pour nous parler, c'était aussi que sa femme, Maria, une anglophone, traduise son témoignage.
Je m'appelle Alexandre, enfin, c'est un nom fictif. J'ai 37 ans. Je ne veux pas révéler ma vraie identité, parce que ce dont je vais parler n'est, disons, pas très bien vu par l'administration militaire.
Donc vous êtes en âge de combattre, pourtant vous êtes ici, vous n'êtes pas au front?
D'abord parce que j'ai peur de me retrouver envoyé au front. Je n'ai aucune certitude que l'État serait capable de me protéger. Le deuxième point, c'est que j'ai des amis et des proches, aussi bien en Ukraine qu'en Russie. Donc j'ai aussi un conflit idéologique. Et puis le troisième point, quelle que soit la dureté de ma vie maintenant, elle est toujours meilleure que si j'allais à la guerre.
Vous vous êtes déjà fait attraper et vous avez réussi quand même à échapper à l'armée. Comment vous avez fait ?
J'ai été attrapé un peu à l'extérieur de la ville, dans l'approche banlieue. La police m'a simplement stoppé sur la route. Quand ils m'ont arrêté, un agent de recrutement du TCK est apparu tout de suite. Et j'ai immédiatement compris qu'ils allaient m'embarquer d'une manière ou d'une autre. Ils ont commencé à me demander mes documents militaires. Je n'ai rien pu leur donner, évidemment, puisque je n'en ai pas. Alors le policier a dit « Tu as deux options. Soit tu acceptes volontairement de nous suivre et tu conduis ta propre voiture avec un agent du TCK assis à côté de toi, soit on procède à ce qu'on appelle une interpellation musclée. Et dans ce cas, tu pars avec le visage en sang dans notre voiture. » J'ai pensé que, bien, l'option qui me permettait de garder mon visage intact me convenait un peu mieux. On est donc parti vers ce fameux « centre de tri », comme ils l'appellent. Je vais alors y passer une semaine. Dès que tu entres là-dedans, tu n'es déjà plus considéré comme une personne, mais comme une ressource de mobilisation, un numéro, juste un de plus dans un registre. T'es plus un humain. C'est dans une grande salle, une pièce où on est littéralement entassés les uns sur les autres. Je crois qu'il y avait 32 lits. Et dans mon souvenir, on est monté jusqu'à 58 personnes. Il n'y avait même pas assez de place pour s'allonger par terre. Et tu trouves là des profils très différents. Tous des hommes en âge d'être mobilisés, entre 25 et 59 ans. Mais souvent, ce sont des gars ramassés dans la rue, des SDF, des marginaux. Tous dans la même pièce. Et tout le monde te répète, d'ici, personne ne sort. Payer un pot de vin pour sortir, c'est possible. Mais encore faut-il savoir à qui. Et par miracle, dans mon entourage, il y avait quelqu'un qui avait une connexion avec une personne qui pouvait m'aider. Pour rentrer dans l'armée, normalement, il faut passer une commission médicale. Sans ça, personne ne peut s'enrôler. Et du coup, ils m'ont remis une convocation pour que je passe volontairement cette visite médicale à l'extérieur.
Donc ils vous ont laissé partir ?
Oui, après ça, j'ai signé et ils m'ont relâché, à condition que je revienne une fois l'examen médical passé. Bien sûr, je ne l'ai jamais fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux quasiment plus sortir de mon appartement.
Ça vous a coûté combien ?
Au total, j'ai dépensé 3 000 $. Je vous assure que ce n'est pas énorme. Parce que les montants dont j'entends parler, et que tout le monde connaît, tournent plutôt autour de 8 000, 12 000 $. Juste pour pouvoir sortir du centre.
Cet argent, il va dans la poche de qui ?
Honnêtement, je ne sais toujours pas qui s'est mis l'argent dans la poche. Très probablement des officiers des centres militaires locaux. Quant à savoir si les Ukrainiens sont au courant, bien oui, bien sûr. Ils savent très bien qu'ici, on peut tout régler avec l'argent. C'est un secret pour personne.
Depuis l'Europe de l'Ouest, on a l'image d'un pays où chaque Ukrainien est prêt à mourir au front. Mais en fait, vous nous racontez une histoire assez différente.
Et je ne suis pas le seul. En 2022, on avait vraiment un sentiment d'unité. Beaucoup de gens sont partis au front et on a stoppé l'invasion. Et puis une année passe, une deuxième. Et tu vois que l'aide humanitaire est volée par wagons entiers. Pour certains, c'est la guerre. Pour d'autres, c'est juste un moyen de se faire du fric. Une personne normale, si elle a la tête sur les épaules, elle n'a pas envie d'aller à la guerre. Personne n'a envie de tuer des gens. Les Ukrainiens sont des gars solides, mais c'est simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. On veut donner l'impression qu'on est des robots, mais non, on est des gens ordinaires et on est au bout de nos forces.
Il y a des vétérans de la guerre du Donbass qui nous ont rejoints.
24 février 2022,
le président Zelensky a décrété la mobilisation générale.
La plupart des gens ici sont des civils qui ont pris les armes.
La Russie envahit l'Ukraine.
Je ne veux voir aucun occupant russe ici.
8 ans après l'annexion de la Crimée.
Personne ne les a invités.
En 8 jours, rien que dans ce quartier nord d'Odessa, 2000 personnes se sont portées volontaires.
C'est une grande tragédie pour n'importe quel père d'envoyer son fils à la guerre. Mais si notre pays nous le demande, nous irons tous les deux sans aucune hésitation.
Certains de vos amis, de vos compatriotes, meurent aujourd'hui encore tous les jours au front. Vous, vous avez réussi à corrompre un militaire pour éviter l'armée. Comment vous vous sentez par rapport à eux ?
C'est un arrangement avec ma conscience. Parfois ça va, parfois je commence à être en colère contre moi-même. Mais au final, on s'habitue à tout. Même à ça. Comme l'administration me recherche, je ne peux travailler qu'au noir. Je suis manutentionnaire, je fais différents travaux. Changer une prise, accrocher un rideau, remplacer une ampoule, des petits trucs comme ça. Quand je bosse, je suis en contact avec des personnes très diverses, notamment des épouses de militaires, dont les maris sont au front. J'ai même rencontré des mères qui ont déjà perdu leur fils à la guerre. Et quand j'ai réalisé qui j'avais en face de moi, au début j'ai eu honte. Je me suis senti mal à l'aise. Parce que leur fils est dans un cercueil, et moi, je suis là. Mais je n'ai jamais ressenti, pas une seule fois, le moindre regard accusateur. Ni de la part des militaires en service, ni de la part des mères endeuillées. En général, ces femmes me disent juste « c'est bien que tu sois encore en vie ».
Vous, Maria, en tant que femme de déserteur, tout repose sur vous aujourd'hui. Toute la vie de votre couple, en fait, elle pèse sur vos épaules.
Aujourd'hui, je sais qu'il est dans une situation terrible. Je n'arrive pas à imaginer ce que ça fait d'être libre, mais prisonnier à l'intérieur de soi-même, constamment en danger. Et ce qui m'effraie encore plus, c'est que je ne sais ni quand, ni comment tout ça va se terminer. J'ai peur qu'à n'importe quel moment, en décrochant le téléphone, j'apprenne qu'il a été arrêté. Et ça me fait vivre dans la peur et la souffrance, chaque jour, à chaque instant.
Quand je sors dans la rue, je dois toujours rester sur mes gardes. Je regarde autour de moi en permanence. Je ne sors qu'en plein jour et j'essaye juste de me fondre dans la masse. Sinon, je ne me déplace qu'en voiture. Avant de sortir, je consulte des chats Telegram où des fuyards comme moi signalent où se trouvent les autorités. Ça peut être la police ou un militaire du TCK, chargé de recrutement. Bref, j'essaye d'éviter toute interaction avec l'État. N'importe quel homme autour de moi, dans la rue, peut très bien être un agent qui m'arrêtera sur le champ et qui m'emmènera au centre de recrutement.
Ceux qui se cachent comme Alexandre, ils finissent parfois par craquer au bout de quelques mois et ils se portent alors volontaires dans certaines brigades d'élite réputées moins exposées et où la formation est meilleure que dans l'armée régulière. Un choix un peu contraint pour éviter d'être arrêté et envoyé dans une unité au hasard, souvent en première ligne. Alors je suis maintenant en train de m'enfoncer dans une forêt de la région de Kif, où je rejoins la base de l'unité Typhoon. C'est une unité des forces spéciales de la garde nationale. Et là-bas, justement, tout le monde est volontaire. Les hommes suivent une formation au pilotage de drones de combat avant d'être envoyés sur le front.
Je m'appelle Alexander, nom de code, professeur. instructeur de l'unité spéciale de drones Typhoon. Le processus de recrutement, comme partout dans le pays, est compliqué. On manque toujours d'humains, d'argent et de tout le reste. Mais dans notre unité, on a un avantage. Les personnes qui nous rejoignent sont uniquement volontaires. On fait des campagnes de publicité, on fait des opérations de communication. Et ensuite, ceux qui veulent nous rejoindre envoient une demande. On les reçoit pour un entretien, pour comprendre leur niveau de connaissance et voir sur quel poste on peut les intégrer.
Vos nouvelles recrues, elles s'engagent ici parce qu'elles ont moins de chances de mourir que si elles sont mobilisées de force pour aller dans n'importe quelle unité ensuite.
Nous les formons à des technologies qui permettent d'utiliser des armes tout en restant assez éloignés du front. Donc je ne peux pas vous donner de chiffres exacts, mais nos pertes sont très faibles. On peut les compter sur les doigts d'une main. Parce que notre unité forme à la guerre moderne.
Il vient de commencer à neiger et on se dirige vers le camp d'entraînement. Bonjour.
Ah, bonjour, bonjour.
Mon nom de code, c'est Tyran. J'ai 30 ans. Et ici, on s'entraîne au tir avec des fusils automatiques, mais aussi au tir pour être en mesure d'abattre les drones une fois sur la ligne de front. Je suis dans l'unité depuis 6 mois. Je viens de Donetsk, en zone occupée. Pour moi, tout a commencé en 2014. Aujourd'hui, je comprends qu'il n'y aura pas de paix. On peut rester assis, se cacher, filer en Europe ou ailleurs. Mais c'est inévitable. Les Russes veulent s'emparer de l'Ukraine et de l'Europe. Et peu importe qu'on se cache ou pas, donc il faut résister à ce mal et se rendre utile.
Quand vous voyez des gens qui s'enfuient, qui payent pour ne pas aller à l'armée, comment vous vous sentez, vous ?
Betrayed.
Je me sens trahi.
Trahi
parce que c'est un peu comme quand une énorme catastrophe arrive, une inondation par exemple, un truc qui touche tout le monde. Il y a des gens qui essaient de gérer la situation, de sauver des vies, de faire quelque chose, et d'autres qui, au contraire, essaient de se planquer et de profiter des efforts des premiers. Donc oui, je ressens pas mal de colère.
Alors plus tôt, on a rencontré Alexandre. Lui, il a payé pour s'échapper du centre de recrutement. Il reste recherché par les autorités, mais la corruption en Ukraine, elle permet aussi à certains de se faire réformer complètement. On a maintenant rendez-vous avec Igor, et Igor, lui, il est libre. On le rejoint dans le centre-ville de Kiev. Je l'aperçois là, il m'attend assis à la terrasse d'un café, il est en train de fumer une cigarette. C'est un homme grand, chauve, assez imposant, je dois dire. Et il nous a écrit qu'il préférait rester dehors pour nous parler, car comme il fait très froid, il est sûr que personne ne viendra s'asseoir à côté de nous et nous écouter.
Je m'appelle Igor.
Bon,
on va juste dire Igor, hein, sans mon nom de famille. J'ai 39 ans, je suis mécanicien automobile. Moi, je ne suis plus soumis à l'armée. J'ai réussi à être réformé.
Comment vous avez fait pour être supprimé des listes de mobilisation ?
Je ne sais pas si on peut vraiment le dire comme ça, mais c'est grâce à la corruption qui malheureusement existe dans notre pays que j'ai pu obtenir de faux documents médicaux. Le processus est très long. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver des médecins prêts à prendre ce risque. Ensuite, tout ce dossier a été transmis à la commission médico-militaire. Et au bout d'un certain temps, la commission m'a reconnu inapte.
Et pour tout ce processus, Igor, vous avez déboursé combien ?
Environ 20 000 euros. Mais la somme varie selon les gens. D'après ce que je sais, certains paient moins, d'autres beaucoup plus, jusqu'à 50 000 euros. Ça dépend de la situation et de ton dossier médical, des fausses maladies que tu as sur le papier. J'ai aidé plusieurs personnes, de la même manière, avec le même schéma, à éviter l'armée. Mais elles ne sont pas restées en Ukraine. Elles sont parties à l'étranger.
Quand une personne comme vous refuse d'aller au front, c'est d'autres personnes qui vont à sa place. Comment vous vous sentez par rapport à ça ?
Comment je me sens ? Je ne me sens pas très bien, mais pas complètement mal non plus, disons ça comme ça. Parce qu'encore une fois, on parle de la vie, et beaucoup de mes proches ont été tués. Il n'y a pas longtemps, j'ai enterré un ami qui a été tué à la guerre. Donc, aussi étrange que ça puisse paraître, je me sens comme quelqu'un qui peut simplement vivre. J'ai une épouse et un enfant, j'ai un business, et je dois subvenir aux besoins de ma famille. Voilà, je suis comme tout le monde.
Est-ce que c'est dur aujourd'hui, en tant qu'homme ukrainien, de dire qu'on a peur d'aller combattre ?
Oui, c'est difficile. Parce que nous sommes des civils, on a vécu toute notre vie en paix. Et aujourd'hui, même après 4 ans de guerre, je pense que pour beaucoup de gens, c'est encore très dur de dire ça. Mais les gens ont peur.
Vous avez échappé à la mobilisation, mais vous aidez quand même l'Ukraine.
C'est mon pays. Et donc j'aide depuis 2014. Je ne fais pas que soutenir l'armée, j'aide aussi les civils. Donc j'envoie beaucoup d'argent pour différentes collectes, pour acheter des drones. Ensuite, comme je suis réformé et que j'ai le droit de quitter le pays, je ramène des voitures de l'étranger pour les militaires, des pick-up, des ambulances. Je pense que chaque Ukrainien doit faire quelque chose. Et c'est pas parce que je ne suis pas dans l'armée que je reste à la maison. Je ne me cache pas. Je vais régulièrement près du front. Depuis 2022, je me suis beaucoup occupé de l'évacuation des civils. Donc oui, j'aurais pu partir à l'étranger, mais je ne l'ai pas fait. Parce que je considère qu'il faut soutenir notre pays.
Je m'appelle Daria Kaleniuk, je suis directrice exécutive du Centre d'action anticorruption à Kiev. Nous sommes ici au siège de notre ONG, à environ 100 mètres du bureau du président ukrainien. Le Parlement est à 500 mètres. Et la place Maïdan à 200 mètres. C'est là qu'a eu lieu la révolution de la dignité en 2014. Le peuple ukrainien s'est soulevé et nous avons forcé le président pro-russe Yanukovych à partir. Depuis, nous avons commencé à mettre en place des institutions capables de lutter contre le vol et la corruption à grande échelle. Et depuis, tout le monde semble dire « Oh mon Dieu, l'Ukraine est tellement corrompue, c'est le pays le plus corrompu du monde, d'Europe, je ne sais quoi. » Et je leur réponds « D'accord, attendez une seconde. » Pour la Russie, la stratégie de corruption de l'Ukraine fait partie de leur guerre contre nous. Une façon de déstabiliser le pays, c'est de repérer au sein du gouvernement des gens cupides, de leur proposer de l'argent facile, de détourner les fonds et de pourrir le pays de l'intérieur.
Au cours de notre enquête, les Ukrainiens qu'on a rencontrés, comme vous, ils critiquaient la corruption de la classe politique. Et pourtant, à leur niveau individuel, pour éviter d'aller risquer leur vie au front, ils étaient soulagés que cette corruption existe. Et je trouve ça assez paradoxal, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Il y a aussi énormément d'Ukrainiens au front qui n'ont pas payé de pot de vin et qui se battent. Près d'un million de personnes, et des milliers sont déjà morts. Dans n'importe quelle guerre, même pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours eu des gens qui ont essayé d'échapper à la mobilisation et de profiter des failles du système, notamment par la corruption, pour s'en sortir.
Je voulais vous montrer une vidéo. On a vu beaucoup de ces vidéos circuler sur Telegram, d'agents du TCK, des services de mobilisation de l'armée, qui enlèvent littéralement des hommes dans la rue parce qu'ils refusent d'aller au front. Quand vous voyez des vidéos aussi violentes, vous, en tant que militante des droits de l'homme, qu'est-ce que vous ressentez ?
D'abord, chaque vidéo doit être vérifiée. Très souvent, elles peuvent être mises en scène. Très souvent aussi, elles peuvent être réelles. En tout cas, c'est exactement le genre de vidéo que la Russie essaie de diffuser au maximum dans le cadre de sa guerre de désinformation sur notre territoire. Et honnêtement, je ne comprends pas ces femmes qui pleurent comme si leur vie s'effondrait simplement parce que leur mari est mobilisé. Je suis la mère de deux garçons et je souhaite qu'ils s'entraînent à se battre et soient prêts à défendre leur pays. Je crois que le grand défi de l'État ukrainien, c'est de faire de la mobilisation non pas un fardeau, mais un honneur, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et ça, c'est impossible s'il n'y a pas de confiance envers l'État. À mon avis, tous les scandales de corruption à grande échelle qu'on a dans les secteurs de la défense ou de l'énergie devraient faire réfléchir le président Zelensky. S'il se débarrasse de son entourage pourri et corrompu et qu'il envoie un vrai signal en montrant qu'il essaie de reconstruire la confiance avec la société, alors la petite corruption va diminuer aussi, dans le recrutement militaire comme dans d'autres secteurs. Parce que la possibilité de payer un pot de vin pour éviter la mobilisation, c'est aussi le symptôme d'un système complètement pourri. Et en temps de guerre, la corruption tue. Parce que si l'argent du peuple ukrainien et celui des contribuables étrangers qui nous aident est mal utilisé, ça veut dire qu'à la fin, les soldats au front ne reçoivent pas l'équipement dont ils ont besoin. Je ne pense pas que la guerre va se terminer bientôt. La Russie restera notre voisine, donc la question de la mobilisation va continuer à se poser. Et cette problématique se posera aussi à nos partenaires européens quand la guerre les touchera directement. Ce qui, j'en suis convaincue, finira par arriver.
Ukraine, payée pour échapper aux tranchées, un reportage signé Noé Pignède.
France Inter, Interception.
Quitter son pays quand on travaille pour une université parce qu'on ne peut plus conduire ses recherches, on a déjà vu ça dans les pays totalitaires. Mais quitter son pays, les États-Unis, en 2025, parce qu'on travaille sur le réchauffement climatique, l'état de droit ou les questions de genre, quel vertige ! Quitter son pays, les États-Unis, parce que les coupes budgétaires ne permettent plus de travailler ou parce que certains sujets sont irritants pour l'administration Trump, quelle tournie ! Des chercheurs américains ont donc choisi l'exil. En France, le programme s'appelle Safe Place for Science, un lieu sûr pour la science, et l'université d'Aix-Marseille a ouvert 30 postes. Il y en a un pour Lisa, qui vient de quitter le Minnesota. Son domaine de recherche, c'est la démocratie, la Constitution, le rôle des juges. Et vous allez voir que même en ayant mis un océan entre Trump et elle, elle choisit ses mots. Cécile Bideau l'a rencontrée en plein emménagement.
Je crois que je les aperçois. Je vois deux personnes qui sont en train de porter des grosses valises. Je pense que c'est eux. Bonjour! Vous êtes Lisa?
Oui, je suis Lisa.
Bonjour, enchantée.
Enchantée, Cécile.
Là, vous êtes en plein emménagement, je vois.
Oui, oui, oui.
Vous voulez que je vous rentre une valise, là? Monsieur. Oh, pardon. James qui arrive avec une grosse caisse.
James, enchanté.
Enchanté. Hop, je vous donne ça.
Merci beaucoup, c'est très gentil.
Donc là, vous arrivez d'un hôtel, en fait.
Oui, 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 oui. Hôtel, Airbnb, hôtel. Bon, ça a été déjà...
Là, ça y est, donc vous êtes entre vos murs, dans votre nouveau logement. Comment on se sent là, quand on fait ses premiers pas chez soi?
Oui, oui, oui. Enfin, soulagée. Ça a été pas mal de stress. On a le visa, on a le contrat, un appartement, on a signé le bail. Ça y est, on y est.
Comment ça se fait que vous parliez aussi bien le français?
On va voir. J'ai commencé à étudier le français au collège et après j'ai fait la troisième année de l'université ici à Aix.
Oui, donc c'est pas la première fois que vous vivez à Aix-en-Provence, vous avez
non,
déjà étudié
non, aussi. Mais ça a beaucoup changé.
C'était il y a combien de temps?
C'était l'année 86-7.
Vous voulez qu'on aille s'installer quelque part?
Ça va être ma première fois de me mettre sur le sofa, par exemple.
Je vous suis.
Voir si c'est confortable ou pas.
On va tester en live le canapé du salon.
Je m'appelle Lisa Hilbink, j'ai 58 ans. Je travaille à l'Université de Minnesota depuis 2003. Je le suis toujours, enfin, je n'ai pas renoncé. J'ai eu de la chance d'avoir un congé.
Vous êtes professeur de quoi?
De sciences politiques. J'étudie le rôle des juges et le droit dans les processus de démocratisation globale, les droits fondamentaux, l'état de droit, la démocratie.
Alors ce programme Safe Place, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que vous venez un petit peu vous réfugier en France pour continuer vos travaux.
Oui.
Qu'est-ce qui a fait le déclic?
Bon, d'abord, je veux dire, on est un peu mal à l'aise avec l'étiquette réfugiés, parce que je crois qu'il y a des gens actuellement dans le monde, en Palestine, en Ukraine, en beaucoup d'endroits.
Oui, parce qu'on dit les réfugiés scientifiques des États-Unis.
Oui, 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 mais je peux aussi parler du moment où ce programme s'est annoncé. C'était en mars, le mois de février, c'était où il a commencé à attaquer le président et l'Université de Minnesota. C'était parmi les universités visées. Il y avait des menaces tout de suite contre les immigrés. Et donc, on a des étudiants qui étaient arrêtés. Mais vraiment, c'était horrible. Et on ne savait pas comment est-ce qu'on doit répondre à ça. Donc, il y avait déjà ça. Puis après, il a commencé à dire « on va faire souffrir vraiment les universités ». Tout ce qu'ils font, ils parlent dans ces termes. C'est la manière autoritaire de gouverner. On va aider nos amis, on va punir nos ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis.
Concrètement, l'administration Trump, elle vous menaçait de quoi?
Les menaces étaient de faire payer et aussi retirer beaucoup de fonds. À mon université, ils ont voté une politique où les centres, par exemple, centres de droits humains, centre des études du génocide et holocauste, ou bien qui étudie de la politique de genre, leur raison d'être ou leur mission, c'est de faire des commentaires sur des questions d'importance publique. Avant, il y avait des commentaires sur ce qui passait en Israël et Palestine et tout ça. Et ils ont dit, maintenant, on ne peut plus faire des commentaires comme ça. Tout d'un coup, on se sentait muselé, on dit. Pas individuellement, mais collectivement. Ça se passe dans les pays autoritaires.
Donc ça voulait dire que vous ne pouviez plus travailler librement sur votre matière.
Oui, je dirais ça. Et je dirais que déjà sentais ça depuis un moment. Parce que dans mes cours, on ne savait jamais, parmi les étudiants, s'il y en avait un qui notait ce qu'on disait. Toujours, j'étais très soigneuse de ne pas faire des commentaires ou d'être trop anti. Mais toujours avec l'idée qu'aux États-Unis, on pense que la Constitution est importante. Cette idée qu'il y avait certaines règles de base qu'on devait garder. Et quand tout d'un coup, il y a une personne ou un parti qui attaque ce cadre, cette base, je trouve que c'est dangereux et je veux être dans la liberté de dire ça à mes étudiants. C'est pas que je veux attaquer Trump. Et si ça venait de la gauche, je dirais la même chose. Mais ce n'est pas le cas maintenant aux États-Unis.
Et c'est à ce moment-là, alors que Lisa sent monter la pression de l'administration Trump, qu'elle reçoit un petit coup de pouce du destin. Un message d'un de ses amis français lui annonce que l'université d'Aix-Marseille met en place un programme baptisé Safe Place for Science. 30 postes sont proposés à des chercheurs américains. Alors, le couple n'hésite pas une seconde. Lisa postule, elle est reçue au mois de juin à l'université d'Aix et elle présente son projet en français. Parmi 300 candidatures, elle est retenue et là, elle vient tout juste de signer un contrat pour les 3 prochaines années.
C'était incroyable. Je veux dire, je suis très, très chanceuse, très reconnaissante. Et aussi, je dirais un autre sentiment que j'ai, c'est un peu de culpabilité pour avoir cette possibilité en France. Il y a mes collègues qui restent là. C'est un peu un sentiment de culpabilité de survivant.
Vous vous souvenez du moment où vous avez fermé la porte de chez vous dans le Minnesota pour vous dire,
Oui.
On s'en va?
Oui, quand c'était vide. C'était vraiment la maison où nos enfants ont grandi. Et là, on habite, on a de très, très chers amis. On ne sait pas, on a loué, on n'a pas vendu. Mais en même temps, j'ai dit, bon, ça pourrait être la dernière fois. C'est triste ce qui se passe aux États-Unis, c'est vraiment très triste. Ce sentiment de ne pas avoir lutté suffisamment aussi.
Voilà. Un petit endroit pour déjeuner.
Oui, oui, oui.
Donc il fait moins froid que dans le Minnesota, même en hiver.
Oui. 10 degrés ici, 10 degrés là-bas, mais Celsius Fahrenheit.
10 degrés Fahrenheit, ça fait combien?
Moins 10, peut-être, à peu près. Ouais.
On est où là, Lisa?
On est à la Rotonde d'Aix-en-Provence et au fond du cours Mirabeau. Tu prends le salade chaud?
Oui, oui, c'est ça.
Moi aussi.
Deux Américains à Aix-en-Provence, ça commande une salade de chèvre.
Tu vas parler de ton truc préféré.
Ah, le café gourmand, voilà. Non, mais ça c'est la magie, quoi. Je m'appelle James Gerber, je suis un chercheur américain et je suis là en France où j'accompagne ma femme. Je suis physicien de formation, mais ça fait des dizaines d'années où je ne travaille pas carrément dans la physique, sinon dans la science de l'environnement et climat. Malheureusement, la science de climat, le fait de la réalité de changement climatique est devenu une polémique politique. C'est déprimant, c'est décourageant. Moi, personnellement, je peux continuer à travailler dans ce domaine. Avant, je faisais de la recherche un peu plus académique et ça serait très difficile de suivre. Il y a 3 ans, j'ai changé pour travailler chez une ONG. Donc, je peux garder mon travail chez l'ONG, Project Drawdown, ça s'appelle, aux États-Unis. En même temps, je dois reconnaître qu'il faut avoir des soutiens, des bourses, des dons. Il y a beaucoup plus de pression sur toutes ces sources financières actuellement.
Alors comment ça fonctionne pour vous aujourd'hui ici ? Vous travaillez à distance avec votre employeur ?
Oui, je vais travailler depuis Aix-en-Provence. Donc je m'engage à travailler les nuits en fait.
Comme j'aimerais parler de choses peut-être un peu plus personnelles, peut-être on va passer à l'anglais, ce sera peut-être plus simple dans votre langue maternelle. Okay. Est-ce que vous vous sentez déraciné ?
I do, and thank you for that question.
Effectivement, et merci de poser cette question, parce que je ne pensais pas que ce serait le cas. J'ai pris une année sabbatique en France, j'ai fait mon post-doctorat ici, ma licence. Je suis très à l'aise en France. Et pourtant, je me sens
déraciné,
c'est le bon mot. Et par exemple, l'autre jour, j'ai voulu appeler l'un de mes frères. Rien d'important, juste dire bonjour, et tout le monde était en train de dormir. Moi, j'ai beaucoup de chance, parce que je peux continuer à travailler dans mon ONG sur un sujet qui est très important selon moi, et d'une manière qui a des effets concrets. Mais je connais beaucoup d'excellents scientifiques qui ne peuvent plus travailler sur des sujets majeurs. Je trouve ça très triste. C'est une vision à court terme. Il y a des données qui ne sont plus recueillies, des programmes entiers qui vont devoir être reconstruits. Il y aura des dégâts à long terme sur la recherche scientifique. Je n'aurais jamais pensé que ce genre de choses arriverait aux États-Unis.
Est-ce que vous voulez qu'on aille à votre bureau à l'université ?
Oui, oui, oui.
Vous voulez bien montrer
avant qu'il fasse nuit, hein ? C'est la faculté de droit et sciences politiques. Et je suis affiliée avec un laboratoire. Ça s'appelle UMR, Unité Multidisciplinaire de Recherche, Droit International Comparé Européen.
Ah, Lisa.
Ah, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Comment ça va?
Ça va?
Il y a un courrier pour toi.
Ah, là-bas. C'est elle qui l'a mis.
Oui, oui, oui. D'accord. Super, elle m'a dit.
Donc c'est un bureau partagé entre plusieurs chercheurs.
Oui, c'est ça.
Il y a quelques livres là dans votre étagère.
C'est à moi là. Voilà, là on a la Constitution des États-Unis quand même.
Alors concrètement, ça va se passer comment vos journées ici ? C'est quoi vos attributions ?
Pour le moment, je vais me dédiquer à la recherche et puis l'enseignement, ça viendra en l'automne 2026. Pour la licence bilingue, et je vais aussi donner des cours en des programmes de master.
Est-ce que vous allez pouvoir mener des recherches que vous ne pourriez plus mener chez vous aux États-Unis, oui, à votre avis?
Oui, oui, non, 100%. Bon, des projets sur la démocratie, l'état de droit, le constitutionnalisme, non, oublie-le, c'est pas possible. Je sais bien qu'il y a des listes qui s'appellent les Professor Watch List.
Donc les professeurs qu'on surveille.
Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas le gouvernement qui le fait, mais c'est ceux qui soutiennent ce régime. Enfin.
Est-ce qu'on peut parler argent ? Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous allez gagner ici ? Vous le savez ?
Ça va être dans les 2500, 2700, je ne sais pas exactement, net.
Et donc, si on compare avec votre salaire américain ?
Je crois que c'est la moitié. Le salaire est très bas. Mais j'ai des fonds qui vont vraiment me permettre de faire des choses intéressantes.
L'université française, vous savez peut-être qu'elle traverse aussi une crise économique. Oui. On a entendu des chercheurs dire, nous, on ne nous donne pas les fonds pour effectuer nos recherches et on accueille à bras ouverts et avec des fonds des chercheurs américains. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui. J'arrive pas dans une parachute pour prendre ces fonds, pour avancer ma carrière à moi. Je vais travailler pour que les gens autour de moi disent « Ah non, mais c'était vraiment un bon investissement. C'était, je veux dire, pas dire d'une manière économique, mais intellectuelle. Après, bon, on ne sait pas ce qui va se passer dans le monde. Mais si je rentre dans 3 ans, j'espère qu'on aurait créé des liens qui vont durer dans le temps. Et peut-être, qui sait, avoir une réciprocité. Tout est possible. Donc, je veux vraiment...
C'est-à-dire accueillir des chercheurs français aux États-Unis le jour où ça ira moins bien ici.
Exactement, exactement. J'espère que non, j'espère que... Mais bon, je crois que l'image publique, des fois, d'un chercheur, une chercheuse, c'est quelqu'un qui travaille devant son ordi ou dans son laboratoire, vraiment solitaire. Et c'est pas du tout ça. Les vrais progrès, les vraies découvertes et avances scientifiques viennent de la collaboration, du travail collectif.
Ces chercheurs qui fuient l'Amérique de Trump, un reportage de Cécile Bideau pour Interception. À la production, Xavier Yvon, la réalisation est signée Lucie Lemarchand, Martine Messonnier est chargée de programme, c'est Loïs Moreau, Anne-Laure Cochet et Théo Delobader qui assuraient le mixage. La semaine prochaine, Interception vous propose de réécouter l'un de ses grands formats, La justice au bout de ses peines, signée Sarah Guibaudot, une plongée dans un monde judiciaire qu'on connaît très mal, celui de l'aménagement des peines.